Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Violette Lazare.
Bonjour.
Journaliste à l'Obs, vous signez avec Marion Galland qui travaille en Corse pour la radio RCFM. Vendetta, les héritiers de la brise de mer chez Plon. C'est un livre d'enquête sur une extraordinaire histoire corse, l'histoire d'un gang mafieux décimé par une série de règlements de comptes à la fin des années 2000, mais qui se trouve des héritiers. Trois des fils des bandits assassinés reprennent le flambeau de leur père et mûrissent une vengeance contre ceux qu'ils tiennent pour leurs assassins. Histoire de destinée, de filiation que vous rendez vivante, humaine, complexe, avec des fils de truands qui n'avaient pas forcément vocation à devenir des truands. C'est vrai notamment pour l'un des personnages principaux de cette histoire, Christophe Guazzelli, qui a été un espoir du foot. Il avait signé un contrat pro au FC Nantes et que la mort de son père a fait basculer.
Oui, tout à fait. Pour nous, c'est ça. Ce qu'on voulait raconter, c'est à la fois tout un volet historique à travers l'histoire de la brise de mer, qui est le clan criminel qui a été le plus puissant pendant une vingtaine d'années. L'histoire des héritiers nous est venue à travers ce personnage, effectivement, enfin ce personnage, on dit, c'est pas un personnage, c'est une personne réelle, hein, Christophe Guazzelli, qui n'était pas du tout parti pour suivre les traces de son père, Francis Guazzelli, un des fondateurs de la brise de mer. Christophe Guazzelli, il commence à jouer au foot très tôt, il fait un stage, il est pris à Clairefontaine, c'est là où ont commencé tous les grands noms du foot. Ensuite, il signe plusieurs contrats, jusqu'à signer ce contrat pro à Nantes. Il aurait dû devenir un joueur de foot professionnel. Nous, en enquêtant, on est un petit peu tombé des nues, c'est-à-dire que c'est très caricatural. Son père meurt assassiné sur une route de Corse en novembre 2009. Et du jour au lendemain, à la mort de son père, c'est plus le même. On le reconnaît plus. À Nantes, ses entraîneurs, ses anciens coéquipiers disent « mais quand il est revenu, on l'a plus reconnu ». Et ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il est revenu quelques mois. Et puis ensuite, il est reparti sur l'île. Il a renoué avec tous les fils d'eux. Des anciens fondateurs de la brise de mer. Et là, on ne va pas dévoiler la fin, mais il commence une conspiration pour venger les pères.
Une vengeance mûrie, préparée pendant 8 ans, et qui est passée par le banditisme, le trafic de drogue. Mais vous pensez que ce trafic était en quelque sorte destiné à alimenter, à financer cette vengeance ?
Oui, alors il faut faire attention parce qu'il n'y a aucun des... Pour l'instant, il est présumé innocent. Aucun de ces personnes n'ont été jugé pour l'instant.
Il n'est pas encore jugé, mais les charges qui pèsent sur lui sont assez lourdes. Il y a des SMS accablants notamment.
Les charges sont assez lourdes. Il ne les nie pas, en tout cas pour le moment. Voilà. Mais bon, c'est les précautions d'usage, il faut quand même faire attention. On a enquêté, on a mené une enquête journalistique et on a aussi eu accès à un certain nombre de documents judiciaires. Donc avec tout ce travail, on peut quand même aujourd'hui voir qu'il va commencer par être impliqué dans plusieurs trafics de stupes, ou par monter des trafics de stupes qui semblent n'être qu'une façon de financer cette vengeance, financer cette vendetta. Le plan va mettre 8 ans à être exécuté.
L'histoire est extraordinaire, les personnages le sont, l'enquête criminelle aussi, où l'on découvre que la police a sonorisé la cellule d'un des chefs mafieux du camp adverse, donc Jean-Luc Germani, et qu'il recevait beaucoup dans sa cellule, et qu'il était très bavard.
Voilà, alors ça c'est un autre volet de l'enquête, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux fils de la brise de mer, mais on s'est aussi intéressé aux clans adverses, parce qu'il y a une guerre qui a deux motifs, à la fois venger les pères, donc c'est une vendetta, donc c'est vraiment une guerre pour l'honneur, et une guerre aussi pour l'emprise, évidemment, économique, financière de l'île. Les structures touristiques, les marchés publics. Voilà, derrière cette guerre, il y a tout ça. Il y a évidemment des enjeux financiers très importants. Et en s'intéressant aux clans ennemis, donc des fils, on a eu accès à un certain nombre de documents, dont un document exceptionnel qui est une sonorisation de cellules.
Et c'est courant, ça ? Ou ça se fait exceptionnellement, vous le savez ?
Alors, dans les dossiers corps, ça arrive. Il y a des sonorisations de cellules qui sont faites, des sonorisations de parloirs. Il y a un débat juridique, hein, d'ailleurs, qui mérite d'être posé, c'est-à-dire que est-ce que c'est une violation de la vie privée ? Quand quelqu'un est enfermé, est-ce qu'on a le droit de l'écouter ou pas ? Quand il est au parloir avec sa famille, est-ce qu'on a le droit de l'écouter ou pas ? Les avocats de Jean-Luc Germani, parce que c'est de lui dont on parle, c'est lui qui a été écouté dans sa cellule, ont attaqué et ont demandé l'annulation de ses pièces.
Mais on découvre un truand corse en prison qui, du fond de sa cellule, est incroyablement intéressé et impliqué dans la vie économique, financière de l'île, des marchés publics notamment. Enfin, voilà, rien ne lui échappe.
À travers cette sonorisation, c'est qu'en fait, elle dit tout ce qui ne se dit pas. Parce qu'en Corse, on ne dit pas grand-chose, surtout pas aux policiers, surtout pas lors des procès. Quand on assiste quand même à des procès corses, c'est souvent soit pas un mot, soit... Alors en général, les personnes qui sont jugées ont de l'humour. Donc c'est « Non mais moi, monsieur le président, j'élève des chèvres. Non mais moi, monsieur le président, à part mes vaches, je ne connais rien, etc. » C'est quand même souvent des blagues. Alors, tout le monde est très, très conscient hein, que c'est... Que tout ça, c'est des blagues, tout le monde rigole, sauf le président qui en général rigole pas beaucoup, l'avocat général. Et là, dans cette sonorisation, ce qu'on voit, c'est tout ce qui se dit pas. C'est-à-dire qu'on discute, on a un homme qui est présenté comme un des voyous les plus redoutés aujourd'hui encore, Jean-Luc Germani, qui parle avec Guy Orsoni, qui est lui plutôt jeune, qui a été mis en examen, condamné à plusieurs reprises, et il lui donne des leçons en fait, c'est des leçons de... Des leçons de voyoucratie, de grand banditisme, de « alors moi je te conseille, si tu veux racketter le casino d'Ajaccio, t'arrives, tu t'assieds, tu dis rien, il suffit qu'on te voie et ils vont comprendre. Tu vas une deuxième fois, tu dis toujours rien. Et puis la troisième fois, ils comprendront et tu leur dis c'est tant par mois. » Voilà, donc il lui explique comment on rackette. Il lui explique aussi comment on infiltre des marchés publics. Les marchés publics, par exemple, pour la construction de l'hôpital d'Ajaccio.
Ouais.
Il est en prison et il dit « j'assiste aux réunions ». Donc il a quelqu'un qui assiste aux réunions pour lui, pour savoir en gros combien va être donné à quelle entreprise. Et pour éviter justement ce détournement d'argent public, la préfecture a mis en place un Italien. Ils ont nommé comme maître d'œuvre un Italien.
Ils font le choix d'écarter une entreprise corse.
C'est ça,
qui
mais
est
il
sur
est quand même. Il est au courant de tout, les projets de rénovation du port d'Ajaccio. On parle aussi de la belle époque des cercles de jeux, où les cercles de jeux rapportaient plusieurs millions d'euros par mois. Alors il dit « Ah bah ça c'est fini, malheureusement j'ai plus ça maintenant, j'ai plus qu'un million à peu près. » Enfin c'est surréaliste. Et tout ce qui est jamais dit est enfin dit.
Ouais, c'est extraordinaire. Autre personnage dans votre livre, Violette Lazare, Cathy. C'est une gardienne de prison, mère de 5 enfants. Elle est fascinée par les détenus et par les voyous et elle va jouer un rôle décisif dans le double assassinat de Porretta en décembre 2017, qui est le point de départ de votre livre.
Alors, je pense que c'est le personnage le plus intrigant de toute cette histoire. En tout cas, c'est celui qui nous a le plus intrigués. On a les fils qui vengent leur père. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais en tout cas, ils ont une histoire, ils ont une logique, ils s'inscrivent dans une histoire qui est millénaire. On a un voyou corse qui essaye d'infiltrer les marchés publics. Et puis on a Cathy, qui vient de la région parisienne, qui s'installe en Corse parce qu'elle a besoin de changer d'air, qui devient gardienne de prison à Borgo.
Oui.
Borgo, c'est la prison du nord de la Corse, qui est une prison assez spéciale, hein, qui a été épinglée à plusieurs reprises par des rapports. C'est une prison où on a coutume de dire que c'est les prisonniers qui font la loi. Donc elle arrive là-bas et en fait on se rend compte à travers notre enquête que ça lui tourne complètement la tête. Elle fréquente des barons de la Brise de Mer, elle aime les polars, elle a l'impression de se retrouver dans un livre et on lui donne l'opportunité de jouer un rôle dans ce qui va être une vendetta qu'elle fantasme complètement sans se rendre compte des conséquences.
Donc il y a le projet de l'empoisonnement d'un détenu et puis surtout sur le lieu du crime, c'est elle qui donne le baiser de la mort puisqu'elle va embrasser.
Les fils ne savent pas à quoi ressemble leur cible, leur victime potentielle. Elle le sait parce qu'il a été emprisonné à Borgo et c'est elle qui propose. Elle dit voilà ce que je vais faire, je vais aller à l'aéroport, je vais les attendre et je vais leur faire la bise. Et au moment où je vais leur faire la bise, vous allez comprendre que c'est eux. Donc c'est elle en plus, elle fait même plus que ce qu'on lui demande.
Elle se jette au cou d'une des victimes. D'après la logique, l'engrenage que vous décrivez, on se dit que ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il y a encore des orphelins qui, peut-être demain, qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense que ce n'est pas terminé, moi, personnellement. Ce qu'on a pu voir aussi en enquêtant, c'est qu'il y en a qui s'en sortent. Enfin, il y en a qui choisissent un autre chemin, il y en a qui choisissent une autre voie. Après, c'est illusoire de penser que ça va s'arrêter.
Vendetta, les héritiers de la Brise de Mer, Violette Lazare, Marion Galland, chez Plomb. Merci.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en
Merci.
Parler.
Merci.